Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et de retour avec nous, comme toutes les semaines, Jean-Pierre Foultier, évidemment. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Et on continue de parcourir le cinéma ensemble. C'est la dernière de nos 5 chroniques sur cette série. Et elle sera consacrée au cinéma européen.
Après avoir parlé beaucoup du riche cinéma français, après avoir présenté le cinéma russe de l'époque soviétique et malheureusement trop rapidement le foisonnant cinéma italien des années d'après-guerre, cette chronique s'efforcera de dresser un tableau du cinéma européen en ce début du XXIe siècle.
Alors, on avait évoqué, on s'en souvient la semaine dernière, la crise sérieuse qu'avait traversé le cinéma italien dans les années 80 à 2000. Est-ce que c'est le seul cinéma qui a été touché ?
Non. Il l'a peut-être été plus violemment que les autres. Revenons, si vous le voulez bien, sur cette crise du cinéma italien. On peut dire que l'influence catastrophique de la télévision privée a détruit le cinéma italien, a fait que l'Italie devienne un lieu de saccage pour les États-Unis, leur cheval de Troie en Europe. Cette remarque acerbe du producteur français Marine Karmitz pointe du doigt les deux fautifs, la télévision commerciale et la concurrence américaine. C'est un peu réducteur, mais ce n'est pas faux. Au début des années 2000, les films italiens sont vus par 15% des spectateurs de ce pays, contre 70% pour les films américains. Et l'écart est encore plus grand en Grande-Bretagne, dont le cinéma a eu, lui aussi, ses lettres de noblesse. Il avait lancé Alfred Hitchcock, avant que celui-ci ne parte pour Hollywood, et il a produit les premiers James Bond. Tous les cinémas européens ont souffert quand ils ne se sont pas effondrés. C'est le cas aussi du cinéma allemand. D'autres, comme le cinéma espagnol ou le cinéma scandinave, avaient des caractéristiques particulières qui les ont un peu protégés. Dans le premier, c'est un nom surtout qui apparaît, celui de Pedro Almodovar. Pour le second, la succession du très intimiste Ingmar Bergman n'a pas été vraiment assurée, mais des cinéastes très personnels, comme le Danois Lars von Trier ou le Finlandais Koris Maki, s'inscrivent dans cette veine du cinéma d'auteur. Or aujourd'hui, ce sont des cinémas aux marges de l'Europe qui brillent auprès des cinéphiles. Nous parlions il y a peu de Zviagintsev et du nouveau cinéma russe. Il faut évoquer aussi le cinéma turc et son porte-drapeau Nuri Bilge Ceylan, palme d'or à Cannes en 2014 avec Winter Sleep, Soleil d'hiver, sans oublier le superbe Mustang de Deniz Gamze Erguven.
À revoir ou à voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Le cinéma français, il a été lui donc moins touché finalement.
On parle d'exception française. Une exception qui ne désigne pas la situation particulière du cinéma de notre pays, mais bien son statut. Celui-ci expliquant peut-être l'autre, j'y reviendrai. En fait, il faut parler d'exception culturelle. Il s'agit du statut spécial accordé à la création artistique, essentiellement dans le théâtre et le cinéma, qui la protège des règles commerciales de libre-échange, considérant que les produits culturels ne sont pas des biens marchands comme les autres. Ainsi, le Centre national de la cinématographie prélève un pourcentage sur tout billet de cinéma pour apporter des aides à l'écriture, à la création ou à la diffusion d'œuvres, des aides qui prennent souvent la forme de l'avance sur recette. Cette formule qui permet à des auteurs de réaliser des films pas forcément commerciaux, disons. C'est ainsi que les cinéastes de la Nouvelle Vague, les Truffaut, Godard, Chabrol, dont nous avons parlé, et d'autres après eux, ont pu réaliser des films dits « films d'auteur » qui n'auraient pas pu voir le jour sans ce soutien. Et cette exception culturelle a été bien sûr très critiquée par nos voisins européens eux-mêmes, mais qui se rendent compte aujourd'hui qu'elle a permis à notre 7e art national de franchir des périodes difficiles. Et il est vrai qu'un film de Jacques Audiard ou de Robert Guédiguian, pour ne citer que deux noms d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'un tube de dentifrice ou une machine à laver.
C'est clair.
La Commission européenne, depuis quelques années, prend en compte cette spécificité et soutient notamment dans son programme Europe Créative la production cinématographique. Notons aussi que chaque année, le prix Lux du Parlement européen est décerné à un film illustrant l'universalité des valeurs européennes. Ça a été le cas avec Mustang, dont nous venons de parler, en 2015.
Et alors, on a retracé l'histoire un peu de ce cinéma européen. On s'arrête en 2019. Est-ce que ce cinéma européen va mieux ?
Le cinéma européen s'est plus ou moins bien remis de la période de crise des années 80-2000. En France, la fréquentation des salles de cinéma est en augmentation, avec essentiellement un public jeune, attiré par les productions françaises, surtout dans le genre comédie, mais aussi par les superproductions américaines. Un danger pointe pourtant à l'horizon. Ce danger s'appelle Netflix. Après les séries télé, la firme américaine a décidé de produire des films de cinéma qu'elle réserve à ses abonnés avant de les distribuer en salle. L'Union européenne a décidé de l'obliger à participer au financement du cinéma européen. Voilà, nous sommes arrivés au bout de notre exploration du cinéma européen. Il nous aurait fallu d'autres émissions pour le développer moins rapidement. Nous aurons l'occasion d'en reparler.
Évidemment, nous avons tout le temps. En attendant, la Saint-Valentin est certes passée, mais on va se mettre en mode romantique, je crois, dans nos prochains rendez-vous.
Très romantique et très européen.
Eh bien, rendez-vous pour en savoir plus dès la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu, pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.